les aimes, tes cours de philo?
C'est vraiment très enrichissant.
Ça demande encore un peu de pratique.
Bonjour Aurélien.
Bonjour Adèle.
Votre question aujourd'hui est la suivante. L'histoire de l'art relève-t-elle en... Non, pardon. Oui, c'est ça. C'est la question. Pardonnez-moi, c'est moi qui me trompe. L'histoire de l'art relève-t-elle en dernier lieu de l'appropriation culturelle?
Alors, j'ai l'habitude de mettre des images sur les réseaux sociaux, des images toujours un peu énigmatiques que ne relie aucun hashtag, des images sans légende. Le nom du peintre, de la rue, de l'auteur ou de l'architecte est toujours manquant. La méthode, si l'on veut, est celle du musée imaginaire de Malraux et de cette célèbre photo qui le montre, mieux que dans les ruines d'Angkor, fumant au milieu d'une jungle d'images étalées sur le sol. Et je me rends compte, au faible taux d'engagement que j'obtiens vis-à-vis de ces images, que je suis un peu à contre-courant de l'iconographie dominante. L'iconographie dominante qui est très pédagogique, qui passe beaucoup de temps à expliquer les images. Au point que par un étonnant raccourci, les deux bouts de la vie de Malraux, celui du pilleur d'antiquité et celui du conservateur respecté du dernier grand musée universel du monde, tendent à se confondre. L'arc-mère paraît tout autant décapité là-bas que dans ses feuilles volantes qui jonchent négligemment un grand tapis républicain. L'histoire de l'art que Malraux écrit sous nos yeux n'est plus, pour nous, qu'une variante sophistiquée de l'appropriation culturelle.
Et donc la question, c'est de savoir si on peut aimer encore sans s'intéresser à la civilisation khmer, c'est ça?
Oui, et sans s'intéresser surtout aux conditions coloniales de sa redécouverte, car il faut inévitablement rajouter le fait colonial dans l'équation, au minimum pour déjouer tous les quiproquos innombrables qui cernent l'esthète de ces temples grecs dont on sait exagérer la blancheur, à ces fétiches qu'on a un peu rapidement arrachés à leur contexte. L'histoire de l'art n'est peut-être d'ailleurs elle-même qu'un gigantesque quiproquo, une religion qui tente péniblement de naître, un système de distinction sociale, une spoliation massive rendue possible par les trocs trompeurs de l'esthétique. Le beau, aujourd'hui, pour tout dire, nous apparaît un peu truqué. On n'a plus vraiment envie que le stupéfiant image dont parlait André Breton nous intoxique encore. Le cas breton est d'ailleurs parfaitement significatif de cet iconoclasme ténu qui mine notre croyance envers le mythe européano-centré de l'histoire de l'art comme bloc autonome, apolitique et hallucinogène.
Vous voulez parler de son fameux mur ?
Exactement, un mur d'images, de fétiches emplumés, de tableaux abstraits et de feuilles géantes qu'on a déplacé en 2003 de son appartement de la rue Fontaine au centre Pompidou. Et qui est peut-être devenu, là-bas, au milieu de toutes les provocations de l'art moderne, et bien mieux que l'urinière de Duchamp, la seule chose qui parvient vraiment à nous scandaliser depuis qu'on s'est mis à considérer que ce gracieux cadavre exquis surréaliste n'était peut-être qu'un vulgaire trophée. Rien n'était en effet contextualisé dans l'installation primitive, peut-être car le contexte n'en était que trop évident. C'était là une œuvre que seule une puissance coloniale avait pu assembler, que seule une puissance coloniale avait pu adorer. Ce mur, c'est alors la cabine radio de ce culte cargo qu'aura été la modernité qui aurait heureusement fini par heurter le gigantesque iceberg de la pensée des coloniales. On viendra un jour devant ce fétiche pour essayer de comprendre comment une civilisation, la nôtre, a pu se montrer aussi primitive. Et par un étrange paradoxe, on collectionnera ce genre d'œuvres, le mur de Breton, le musée imaginaire de Malraux, le Louvre et le British Museum eux-mêmes, pour leur beauté malsaine et décadente, et on aimera se moquer devant elles, en admirant néanmoins leur profonde cohérence plastique, du caractère naïf de la civilisation qui s'est crue supérieure à toutes les autres, en assemblant ces trophées éclectiques.
Et donc, si je vous suis bien, l'histoire de l'art sera devenue le musée de l'appropriation culturelle.
Ce qui nous conduit à cet inévitable paradoxe que l'appropriation culturelle, devenue à son tour une pièce de sidération, de stupéfaction muséale, se sera fait à son tour appropriée.
À méditer. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie.